Sud Radio CSA La France, midi, midi 30. Nathalie Schrengerma.
Bonjour à tous, bienvenue dans CSA La France, l'émission du savoir-faire français, l'émission qui met en avant les entrepreneurs qui innovent, les entrepreneurs qui font le pari du Made in France. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux alternatives au glyphosate, aux pesticides. Et oui, peut-être qu'en 2021, comme certains le disent, et surtout l'espère, on pourra enfin sonner le glas de ce glyphosate en France pour une majorité des usages. Et bien justement, il y a des pistes, et notamment grâce à l'innovation. On en parle tout de suite dans C'est ça la France.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et nous sommes en ligne avec Gaëtan Séverac, cofondateur de Naio Technologies. Bonjour Gaëtan.
Bonjour.
Alors chaque année, plus de 4 millions de tonnes de pesticides, herbicides et fongicides sont utilisés dans le monde, dont 71 900 tonnes en France. Ce sont des chiffres que l'on peut trouver. Alors le problème, c'est que ces pesticides, herbicides, fongicides se retrouvent dans nos produits, sont nuisibles à l'environnement. On les ingère, quoi. Ils se retrouvent dans nos fruits, dans nos légumes que nous mangeons. Ils sont toxiques pour les agricultures qui travaillent la terre. Et vous, chez Naio Technologies, vous proposez une solution alternative 100% écolo.
Oui, tout à fait, parce qu'il faut bien rappeler que les agriculteurs n'utilisent pas du désherbant chimique par plaisir. Hein. C'est avant tout une nécessité de désherber. Et donc, c'est là qu'on intervient en proposant des robots autonomes de désherbage pour mécaniser le désherbage et l'automatiser, parce que on sait désherber à la main, hein, depuis toujours. Mais c'est une tâche qui est extrêmement pénible, chronophage, très, très complexe et qui coûte cher.
Donc, ça fait combien d'années maintenant que justement les agriculteurs utilisent le glyphosate? Parce qu'effectivement, vous le disiez, avant, on arrachait à la main, mais bon, c'est une des tâches les plus pénibles quand on doit entretenir des hectares de terrain.
Ouais, alors je suis pas historien de l'agriculture, mais on va dire que ça s'est énormément développé entre les années 40 et les années 60. Vraiment, ouais. Ça s'est très très démocratisé. Mais depuis, c'est pas récent, il y a beaucoup de monde qui cherche des solutions alternatives et qui essaye d'innover. Donc on est dans la continuité de ces recherches de solutions meilleures.
Alors le travail que vous proposez pourrait être effectué par un tracteur, sauf que, comme vous l'expliquez, hein, les tracteurs, c'est lourd. Ça pèse plusieurs tonnes et donc ça a tendance à tasser le sol. Donc ce robot désherbant, c'est une bonne alternative justement.
Oui, alors les tracteurs, c'est lourd et ça consomme du gasoil, donc des gaz à effet de serre. Et c'est aussi un des dilemmes, si on veut réduire les désherbants, il faut passer plus en tracteur. Et donc justement, le fait d'arriver avec des robots plus légers, qui tassent moins le sol, qui sont mieux agronomiquement et surtout 100% électriques, donc qui ont un bilan carbone bien meilleur que des moteurs thermiques, surtout en France, on apporte à la fois la solution agronomique qui est mieux et la solution écologique qui est aussi intéressante d'un point de vue émission de CO2.
Donc ce petit robot, il va désherber les rangs de légumes?
Oui.
Rang par rang.
Rang par rang, donc avec des outils de binage, on appelle, c'est comme un sarclé quand on gratte la terre en surface, c'est ce que vous pouvez faire dans un jardin chez vous. Et le but, c'est de passer entre les rangées de cultures en grattant la terre régulièrement pour empêcher les mauvaises herbes de prendre racine.
Alors vous le disiez à l'instant, c'est un robot qui est électrique. Justement, en termes de, d'autonomie, justement.
Donc là, aujourd'hui, on est sur des modèles qui peuvent travailler de 8 à 10 heures non-stop. Ah oui. Et on a des options, on peut toujours rajouter des batteries sans trop de difficultés.
Comment justement ces robots sont-ils accueillis par les agriculteurs? Et d'ailleurs, combien ça coûte pour pouvoir justement s'équiper de robots agricoles?
Alors il y a différents prix, ça va de 10 000 à 100 000 euros selon le type de culture et le type de solution de financement. Est-ce qu'on achète tout, est-ce qu'on loue une partie? On a différentes gammes, un peu comme il y a sur les voitures ou les tracteurs, pour s'adapter à différentes situations, sachant que nous, on vend des machines à des types d'agriculteurs très diversifiés. Ça va du petit maraîcher diversifié en circuit court proche des villes jusqu'au gros producteur de légumes qui va fournir des grandes surfaces, des restaurants et en passant aussi par la viticulture. Donc à chaque fois, c'est des situations un peu divers.
Vous proposez combien de robots aujourd'hui?
On a trois robots pour les trois types, donc petit maraîchage diversifié, légumes de plein champ, culture spécialisée et la vigne.
Aujourd'hui, ce sont des robots qui s'exportent aussi hein, à l'international. Votre marché, il n'est pas uniquement en France.
Non, tout à fait, parce que c'est le problématique de désherbage, hein, c'est mondial. Donc, on vend des robots en Europe depuis déjà 2 ou 3 ans. Et là, on a commencé l'année dernière, et ça se consolide cette saison aux États-Unis, notamment en Californie et au Canada aussi.
Alors, vous faites également partie de ce qu'on appelle la Global Organization for Agricultural Robotics. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Le GOFAR. Donc ce GOFAR, il a pourquoi? Pour intensifier justement le développement de ces robots agricoles, pour créer une sorte de famille autour de ça, pour avancer ensemble?
Donc l'association du GOFAR a pour mission d'organiser le Forum international de la robotique agricole, et son but c'est vraiment de promouvoir la filière via de la communication, des actions de promotion. En fait, il existe déjà plein de syndicats, d'organismes, de regroupements autour du machinisme agricole et de la robotique. Et donc là, GOFAR, c'est vraiment communication.
Et donc, vos principales missions, effectivement, c'est de pouvoir créer cette famille, hein, d'entreprises qui innovent dans le secteur agricole et la promouvoir, notamment hors de nos frontières.
Exactement.
Merci beaucoup, Gaëtan Sévrac, pour cet éclairage. Dernière petite question, la prochaine étape pour Nayo Technologies, c'est quoi?
C'est maintenant consolider, on va dire, les ventes en France et à l'international. On a montré que la technologie marchait, que le marché existait. Donc maintenant, on va se concentrer sur consolider ça et développer ça.
Et que les agriculteurs sont prêts à changer de méthode de travail. Le problème, c'est juste un temps d'adaptation et peut-être les moyens pour pouvoir justement investir dans des innovations technologiques pour faire face à ces pesticides.
Tout à fait, oui.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Gaëtan Sévrac.
Merci à vous.
Au revoir.
Sud Radio, c'est ça la France.
Allez, on se quitte une poignée de secondes et juste après, on parlera de la ferme digitale qui regroupe une quarantaine d'entreprises qui innovent, qui utilisent le numérique, les nouvelles technologies. Là encore, pour améliorer le quotidien des agriculteurs. À tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France, midi 30. Nathalie Schrengerma.
Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Et ce matin, on s'intéresse à ces entreprises qui proposent des alternatives, hein, aux glyphosates, aux pesticides, qui cherchent à améliorer le quotidien des agriculteurs grâce au numérique, grâce aux innovations technologiques. Et on en parle tout de suite avec Didier Rousseau, cofondateur de la ferme digitale, qui, à mon avis, ne va pas me contredire.
Sud Radio, c'est ça la France qui innove.
Bonjour Didier Rousseau.
Bonjour.
Alors, vous êtes d'accord avec moi, les agriculteurs, on ne cesse de le répéter, hein, contrairement à certaines idées reçues, c'est la catégorie socioprofessionnelle la plus connectée. Ils vivent avec ces innovations technologiques, en tout cas de plus en plus.
Bah oui, là, on peut dire que l'agriculture est de plus en plus technologique sur un certain nombre de facteurs qui viennent du réchauffement climatique, du changement alimentaire, d'un certain nombre de demandes sur la réduction de l'empreinte carbone et tous les éléments que vous avez pu évoquer précédemment dans vos dernières émissions.
Alors, Didier Rousseau, je le disais, vous êtes cofondateur co-créateur de la ferme digitale. Vous êtes également le fondateur de FAM, hein, qui est spécialisé, c'est une holding d'investissement spécialisée dans la croissance des start-up françaises, notamment l'économie verte et bleue. Et donc, pour revenir à cette ferme digitale qui a été fondée en 2016 par 5 start-up, et aujourd'hui, vous êtes quoi? Près de 40? Une quarantaine à rejoindre cette belle association, cette belle famille?
Alors, il y a une quarantaine de sociétés, ce qui permet aussi d'avoir un amplificateur sur un certain nombre de demandes qui peuvent être spécifiques à l'agriculture française.
Alors la ferme digitale, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on vous voit au Salon de l'agriculture, hein, chaque année le stand y grossit, et donc vous êtes là pour donner, vous avez comme mission d'apporter, donc on le disait, des solutions grâce au numérique, grâce aux innovations technologiques pour une agriculture plus performante, plus durable. Donc juste avant vous, on avait Gaëtan Sévrac de Nao Technologies, qui propose donc ces robots pour pouvoir arracher les mauvaises herbes sans avoir utilisé les pesticides. Est-ce qu'on peut le dire, hein, l'agriculture devient de plus en plus technique, hein, donc, et notamment pour faire des prédictifs, on a besoin de ces évolutions technologiques,
hein. Oui, elle n'est pas de plus en plus technique, elle est de plus en plus technologique. C'est-à-dire qu'un des éléments majeurs, c'est par exemple le big data, la capacité à récupérer les données pour avoir des modèles prédictifs, comme vous évoquiez juste à l'instant. Et là, on rentre véritablement dans une démarche beaucoup plus technologique que technique.
Nous sommes la première puissance agricole européenne, il faut le rappeler. Alors, vous avez déclaré, j'ai lu ça dans un magazine, vous aviez déclaré que 2020 serait l'année de la maturation pour la ferme digitale. Bon, là, avec le coronavirus, effectivement, le salon de l'agriculture a été annulé. Mais clairement, on voit qu'il y a vos relations avec ces grands groupes avec lesquels vous travaillez ont vraiment changé. Quoi. Il y a vraiment, avant, vous disiez, on était plutôt dans de l'information et aujourd'hui, on est là pour trouver des solutions ensemble.
Il y a un élément d'évolution fondamentale qui était le changement du business model de l'agriculture traditionnelle française, en tout cas pour les coop et les grands privés, qui est la séparation entre le conseil et la vente de phyto, oui. Où une grosse partie de la marge en fait, des coop se faisait là, et il faut que maintenant ces structures-là puissent développer et fournir à leurs clients des nouvelles plateformes de services. Et donc, dans les plateformes de services, tout à l'heure, on parlait rapidement de la problématique de la traçabilité alimentaire. Ben, il y a des sociétés comme Connecting Food, qui font d'ailleurs partie de la ferme digitale, qui ont travaillé sur la blockchain, sur la traçabilité alimentaire, aussi bien en B2B qu'en B2C. Oui. Donc là, par exemple, vous avez nécessité de trouver des réponses assez performantes et surtout des réponses qui vont apporter aux clients des coop, une solution différente qui peut être pour la distribution, pour les consommateurs, une demande forte sur la traçabilité des produits et en plus, couplée avec des circuits courts, ça demande naturellement aussi d'autres techniques. Donc, travailler sur des espaces plus courts, plus petits, avec de la robotique. Hein, donc, ça peut être mais pas simplement pour arracher l'herbe, comme vous évoquiez, mais vous avez une société qui s'appelle Neopharm. Et le sujet, c'est aussi de travailler sur la réduction et la problématique de la main-d'œuvre dans l'agriculture.
Oui, bien sûr.
On voit bien qu'on a une difficulté à trouver de la main-d'œuvre dans l'agriculture. Et si vous avez, à côté de cela, de la robotique, avec des modèles aussi prédictifs qui vous permettent de répondre mieux à une augmentation de productivité, une réduction des entrants, ça peut être aussi bien de la semence que des pesticides, mais que de l'eau.
Et hein, la pénibilité au travail également, parce que ce sont les tâches les plus...
Évidemment, la pénibilité au travail, mais le point essentiel, c'est le manque de main-d'œuvre.
Oui, bien sûr. Et là, la ferme digitale a un vrai rôle à jouer.
La ferme digitale, c'est un certain nombre d'entreprises qui vont délivrer auprès de grandes entreprises comme des coop ou voire dans les filières des réponses aux problématiques qui sont posées en général par les consommateurs.
Est-ce que vous avez des exemples justement à nous donner, un exemple concret d'un partenariat, d'une collaboration entre la ferme digitale et un grand groupe, hein, notamment dans l'industrie agroalimentaire, qui justement a porté ses fruits, hein.
Bah, si vous prenez par exemple, on parlait tout à l'heure de la traçabilité alimentaire, vous avez sur la traçabilité alimentaire Connecting Food avec sa blockchain, travaille sur une filière de la production, alors je ne vais pas vous donner la marque, mais une filière de saucisses, de fabrication de saucisses en France, où la totalité, donc les gens souhaitent suivre les pesticides, est-ce que c'est des produits bio, d'où ils viennent, comment ils sont tracés au niveau de l'empreinte carbone, etc., pour avoir l'information totale. Et donc, lorsque vous couplez à l'ensemble de la chaîne des producteurs jusqu'au consommateur avec des outils de ce type, vous avez une chaîne propre sur la traçabilité. Ouais. Même chose, vous prenez par exemple les pâtes. Maintenant, vous avez le Made in France, mais vous avez aussi le Made in Italy. Et vous avez une grande marque italienne qui souhaite avoir une véritable traçabilité du champ jusqu'à l'assiette. Et donc, ils prennent ce type d'outils. Voilà. Après, vous avez aussi d'autres sociétés, vous avez des sociétés comme Winat, par exemple, qui sont des sociétés qui vont travailler énormément sur la consommation d'eau et sur la connaissance du terroir pour permettre à l'agriculteur de déclencher tel et tel type d'éléments et donc d'avoir aussi un plan particulier d'ensemencement ou voire de d'empreintes, j'allais dire, non chimiques sur son terrain et le distribuer ainsi aussi à ses fournisseurs.
Ouais. Alors, je le disais en introduction, vous êtes également donc, le fondateur donc, de FAM, hein, spécialisé dans la croissance de ces startups françaises. Nos modèles agricoles aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils doivent encore se réinventer en profondeur? Quel est votre état des lieux de ce modèle agricole aujourd'hui?
La grosse difficulté, comme il ne vous a pas échappé, que le monde agricole, en plus cette année, on a une baisse de la production agricole, en tout cas de la culture de l'ordre de 30%, hein, et 18% sur le bio. Donc leur problème, c'est la volatilité de leurs revenus et l'imprévisibilité des revenus.
Ouais.
Donc ça, c'est le point numéro un. Donc naturellement, il faut réinventer les modèles, il faut retravailler en filière, il faut coller de plus en plus à la demande des consommateurs, tout en sachant que la demande évolue très vite.
Bien sûr.
Et que lorsque vous avez fait des investissements longs sur une dizaine d'années, bah, il est compliqué aussi de réinverser des investissements qui ont eu lieu il y a 3-4 ans, alors aussi bien sur la protection animale que sur les circuits courts, que sur le bio, etc. Tout en sachant que si vous prenez par exemple le bio, en France, une grosse partie du bio est plutôt pas sur des produits finaux, mais plutôt sur de la capacité à fournir à des animaux de l'herbe bio,
des choses de ce type.
D'accord ? Donc en fait, quand vous regardez précisément la production en tant que telle, on voit qu'il y a une distorsion entre notre production, sur ce cas-là, et en même temps, donc la demande du marché. Même chose sur la protéine végétale, vous voyez une forte demande sur la protéine végétale sur des populations plus jeunes. Le Canada est très en pointe, nous on est un peu moins en pointe sur la protéine végétale, et donc là il y a aussi à se réinventer. Ensuite, pour les agriculteurs, très souvent il y a aussi à travailler sur la partie énergie, donc sur le méthane, sur d'autres choses, pour aussi retrouver globalement d'autres revenus qui sont dans la capacité de réduire cette imprévisibilité.
Ouais.
Mais les modèles dans lesquels on est sont des modèles qui vont demander une connaissance de plus en plus forte, j'allais dire, du terroir. Hein. Terroir, c'est climatologie et terre.
Mais grâce aux data, justement, on devrait y arriver.
Oui, bien sûr, entre autres.
Pas que. Merci beaucoup Didier Rousseau pour votre témoignage.
Voilà.
Je rappelle, vous êtes le co-créateur de la ferme digitale et le fondateur de FAM, cette holding d'investissement qui justement s'adresse essentiellement à l'économie verte et bleue. Merci beaucoup et je vous souhaite...
Merci beaucoup madame et bonne journée.
Également et bon dimanche.
Au revoir. Merci.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibault le French Trotter.
Et il est déjà l'heure de retrouver Thibaut, notre French Trotter, qui a visité pour nous la plus grande ferme urbaine d'Europe. Bonjour Thibaut, alors racontez-nous.
Ben oui, on en a déjà parlé la semaine dernière. C'est une ferme qui utilise des techniques innovantes.
Qui est à Paris,
voilà, qui s'appelle Nature Urbaine. Des techniques qui sont économes en eau, qui privilégient la pousse verticale. Elles permettent de produire des légumes, des fruits, des aromates, qui sont ensuite distribués au plus près des zones de consommation, c'est-à-dire tout simplement pour les riverains du 15e arrondissement.
Donc ça veut dire qu'en fait, cette société qui exploite la ferme, propose des parcelles pour les Parisiens qui habitent...
Oui, en plus, elle produit en propre pas mal de légumes, de fruits, mais elle propose également des parcelles, comme vous l'avez dit, pour les Parisiens. Et ces Parisiens peuvent les louer à l'année. Par exemple, c'est 1 mètre carré pour apprendre à cultiver au rythme des saisons. C'est tout simplement l'idée du potager urbain remis au goût du jour. Et je vous propose d'écouter Sophie Hardy, directrice de Nature Urbaine, qui va nous décrire ces parcelles à 20 mètres du sol.
Ce sont des parcelles qui font à peu près 80 cm de profondeur par 1,20 m de longueur. C'est du châtaignier qui vient de Sologne.
Ouais.
Et on est là sur une technique de ce qu'on appelle la lasagne, c'est-à-dire qu'on a récupéré des restes de champignonnières pour effectivement que la matière se régénère facilement, et on a comme ça des couches qui sont superposées pour profiter pleinement aux plants qu'on va trouver dans les bacs. On a à peu près 8 à 10 plants par bac. Donc là, par exemple, les plants qu'on peut voir.
Je vois des fraises, mais c'est pas un fruit de saison, dites-moi.
Si. Les fraises remontantes.
Les fraises remontantes, d'accord.
Voilà, donc on a des fraises, on a des tomates.
Il y a des belles tomates.
Voilà, tomates cerises.
Sont à maturité.
Exactement, on a de la ciboulette, on a des aubergines, on a des œillets d'Inde. À côté, on a du basilic, des poivrons, à nouveau des courgettes. Là, on a framboisier. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de plants divers et variés. Chaque locataire vient planter ce qu'il souhaite à partir du moment où ce sont des plants bio.
Voilà, c'est ça, il y a l'obligation de cultiver bio.
Ouais, absolument. C'est vraiment dans la philosophie du lieu, hein, d'être dans une logique respectueuse de l'environnement. Et d'ailleurs, les plants qu'on a plantés cette année pour les locataires, notamment sur la partie tomates, ce sont des tomates anciennes. Mmh. Donc des variétés qui sont certes plus fragiles, mais néanmoins qui sont beaucoup plus goûteuses.
Donc les Parisiens qui cultivent ici, dans cette ferme urbaine, peuvent venir quand ils veulent ?
Tout à fait, ils peuvent venir tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés, de 9h à 21h. Ils disposent d'un badge leur permet d'accéder jusqu'à la toiture.
Un petit peu comme l'annexe, voilà, l'annexe de leur maison, leur jardin particulier.
C'est ça, absolument. Un petit coin, un petit havre de paix, encore une fois, en plein Paris.
Donc on a l'agriculture à Paris avec le salon de l'agriculture et désormais avec Nature Urbaine, on a toute l'année la campagne à Paris, le potager géant à Paris.
Et vous ne croyez pas si bien dire Nathalie, car il y a tout un écosystème qui s'est recréé, comme en pleine nature, avec même des insectes auxiliaires. Écoutez Sophie Hardy nous raconter ça.
Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une biodiversité qui s'est recréée, la joie des fleurs sauvages.
Absolument. On a fait aussi des plantations pour attirer les auxiliaires, parce qu'on compte sur eux pour nous aider dans nos plantations et sur la partie maraîchage notamment. Donc quand on est arrivé sur la toiture, il n'y avait pas d'insectes, ce qui nous a d'ailleurs un peu inquiétés. Aujourd'hui, on a effectivement des papillons, des abeilles, des guêpes, des bourdons, des coccinelles. La nature reprend ses droits.
Donc de vrais auxiliaires, parce qu'ils servent évidemment
à polliniser.
À polliniser, voilà.
Absolument, ils servent de pollinisateurs, on en a absolument besoin.
Oh oui, on en a besoin. Alors c'est très bien si ces fermes urbaines ont aussi des fonctions environnementales. C'est intéressant Thibault, car on assiste partout en France à la croissance de cette filière agricole, mais comme on l'a dit, hein, elle n'a pas vocation à remplacer l'agriculture traditionnelle.
Ouais, elle est complémentaire.
C'est une offre complémentaire avec des produits de qualité. Merci beaucoup Thibault pour cette découverte.
Merci Nathalie, à bientôt.
Allez, bon dimanche à tous et on se retrouve la semaine prochaine. À très vite, au revoir.